tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement, qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, avec moins de pollution et plus de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast, où je vais continuer à vous lire les articles d'une série qui porte sur l'alimentation que je souhaite pour mes enfants. Donc je commence par le deuxième article de la série, qui commence lui-même par deux citations. Une première de Linus Pauling, qui est prix Nobel de la paix et prix Nobel de chimie. L'alimentation optimale est la médecine de l'avenir. Une deuxième citation de Colin Campbell, qui est un scientifique très connu sur le thème de l'alimentation. Citation. Nous demandons combien de vitamine C prenons-nous quand nous devrions demander quels aliments devrions-nous prendre pour appuyer la capacité de nos corps à maintenir une bonne santé. Fin de citation. Donc cet article est le deuxième article d'une série portant sur l'alimentation des enfants. Donc pour mémoire, je présente ici les choix que Romy et moi nous avons retenus pour nos enfants. Ils ne prétendent pas être une prescription universelle pour les autres. Je les décris ici pour partager des informations, inviter à la réflexion, susciter des questionnements, faire découvrir certains aspects, suggérer certaines expériences, etc. Selon moi, il n'existe pas une unique manière de manger sainement, une manière qui soit bien adaptée pour tous. L'individualisation me paraît être un des facteurs clés d'une alimentation saine. Donc pour mémoire, concernant le lien entre santé des enfants et environnement, l'alimentation peut être une voie d'exposition à certains polluants, pesticides, métaux, polluants organiques persistants, etc. Et puis une alimentation équilibrée est essentielle au bon fonctionnement du corps, et un corps qui fonctionne bien est notamment un corps qui est capable de neutraliser puis d'évacuer efficacement les polluants auxquels il est exposé. Le premier article de la série a présenté l'approche que je retiens pour mes propres enfants. Donc cette approche a fait l'objet du podcast précédent, qui était lui-même précédé de derniers résultats scientifiques suggérant l'importance de l'introduction de bonnes habitudes alimentaires dès le tout premier âge, dès la première année. Et pour revenir à cette approche que je retiens pour mes propres enfants, elle pourrait être résumée par manger en s'inspirant de ses ancêtres, surtout des plantes, et en écoutant son corps. Donc l'article que je vais lire à présent décrit les principes généraux qui découlent de cette approche. Donc sans ordre particulier, ces principes sont les suivants. Donc tout d'abord, manger principalement de vrais aliments, entiers et peu transformés. Ceci implique de consommer peu de produits industriels, contenant de multiples ingrédients ou noms souvent imprononçables. Autre principe, choisir des aliments riches en micronutriments et pauvres en toxines. Ce que j'entends par là, c'est antinutriments, substances chimiques ajoutées, sous-produits d'une cuisson à forte température, etc. Donc riche en micronutriments, pauvre en toxines et riche en fibres solubles notamment. Donc les micronutriments sont des éléments nécessaires aux réactions biochimiques qui permettent le bon fonctionnement du corps. Les toxines peuvent perturber ce bon fonctionnement et endommager certaines parties du corps. Et puis les fibres permettent d'atteindre la satiété avec peu de calories, en tout cas avec moins de calories. Et les fibres solubles servent de nourriture pour la flore intestinale. Les fibres insolubles participent, elles, au transit par une action mécanique. Autre principe, composer une assiette où les produits animaux représentent une faible part du volume total. En particulier, ils ne sont pas un élément obligatoire de chaque repas. Manger un maximum de végétaux crus, en plus de l'apport nutritionnel, ceci favorise une mastication énergique qui entretient le système dentaire et permet de réduire le besoin de boire de l'eau pendant les repas. Lorsque la source est sûre, notamment sur les aspects bactériologiques, les produits animaux peuvent aussi être consommés crus. Privilégier les produits issus de l'agriculture biologique dans la mesure des possibilités budgétaires. Aujourd'hui, les évaluations de risque ne me semblent pas suffisantes pour assurer un niveau de protection satisfaisant. Avec mes enfants, je préfère être prudent sur ce sujet. Autre principe, manger des animaux qui ont été nourris avec leur nourriture naturelle. Par exemple, les ruminants broutent de l'herbe. Ils ne semblent pas bien adaptés à l'ensilage de maïs ou au tourteau de soja. Privilégier les aliments de saison et produits localement. Autre principe, éviter de multiplier les aliments différents au cours d'un même repas. Manger l'ensemble de l'aliment pour réduire le gâchis et comme marque de respect envers ce que nous prélevons dans la nature. Pour les plantes, ça donnerait des racines aux feuilles, mais pour les animaux, ce serait des pattes au museau. Autre principe, préférer les légumes frais récemment cueillis et dans une moindre mesure les légumes surgelés, qui présentent, à mon sens, un bon ratio praticité contre richesse nutritionnelle. Privilégier ça aux légumes en conserve. Consommer régulièrement des aliments riches en probiotiques. Ces aliments peuvent apporter des bactéries utiles aux intestins, même si je doute qu'un nombre significatif de bactéries atteigne effectivement le côlon, au vu des dernières études que j'ai pu lire. Et puis ça peut également participer à la régulation du système immunitaire. Donc là, je vous renvoie à la théorie des vieux amis et au podcast qui y est dédié. Autre principe, prendre des repas en famille autour d'une même table sans distraction particulière, comme la télévision, la radio, téléphone portable, etc. L'attention disponible pour la nourriture et les autres. Inclure en routine la consommation d'aliments connus pour leur grande richesse nutritionnelle, parfois appelés super aliments. Quelques exemples, les algues, les avocats, les baies, fruits rouges, fruits bleus, les graines germées, le cacao, le foie, ou les foies plutôt, le jaune d'œuf, le bouillon d'eau, l'ail, l'oignon, les miels, et pourquoi pas du pollen à l'occasion, le brocoli, les épinards, les petits poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, les harengs, les amandes, les noix de Grenoble, les olives, etc. Et dans une moindre mesure, car moins locaux, la noix de coco, la grenade ou les noix de macadamia, par exemple. Autre principe, choisir des aliments de couleurs variées et intenses. Rouge, orange, jaune, vert, violet, etc. Une alimentation de toutes les couleurs favorise l'apport d'une grande variété de composés phytochimiques. Gardez en tête que nous ne sommes pas que des êtres de nature, mais aussi des êtres de culture. Si une nourriture physiologique doit être la base de notre alimentation, elle peut laisser de la place aux mets issus de notre culture. Cette place dépendra des sensibilités et du niveau général de santé du corps de chacun. On peut ajouter quelques suppléments d'âme à la simple satisfaction de nos besoins biologiques en pratiquant une gastronomie éclairée. Placer le plaisir pris à la nourriture au centre de la démarche. Dans ce cadre, l'enjeu pourrait être de maîtriser la stimulation, voire parfois la surstimulation, du système de la récompense des enfants, avec des aliments très gras, très sucrés et très salés, objets de fréquentes publicités, accompagnés d'un packaging attrayant, associés à des héros de dessins animés, etc. Et en parallèle, cela pourrait être de développer la sensibilité de leurs sens, afin qu'ils puissent jouir d'aliments naturels simples, de leur véritable goût, comme l'ont fait des milliers de générations avant eux. Un enfant qui mange des sucreries et des barres chocolatées trouvera que des cerises bien mûres sont fades, et c'est ce que je souhaite éviter à mes enfants. Autre principe, consacrer du temps à cuisiner en routine. Même avec des journées bien remplies, prendre le temps de cuisiner me paraît cohérent avec le principe 20-80, que je développe à l'occasion d'un autre article. Je considère que cuisiner fait partie des 20% d'action qui amène 80% des résultats en termes de nutrition et de santé. Cuisiner en routine permet d'augmenter la maîtrise du contenu de l'alimentation de la famille. Autre principe, rester détendu et raisonnablement flexible, même sur un sujet aussi central que l'alimentation, surtout avec des enfants. Si la nourriture devient une source de stress significative, ce stress pourrait être plus néfaste que les bienfaits supplémentaires liés à une alimentation très optimisée. Par ailleurs, de jeunes enfants pourraient être bloqués par un contexte trop tendu. Des adolescents pourraient choisir ce thème pour s'opposer aux parents, etc. L'idée n'est pas de priver les enfants, mais plutôt de les mettre au contact d'aliments qui favorisent une vie agréable et pleinement vécue, dans laquelle ils se sentent bien. Je ne souhaite pas mettre de pression sur mes enfants, mes efforts se focalisent sur leur environnement. Autre principe, ne pas faire de l'alimentation un objet d'attention au quotidien. La vie est courte, nos enfants et nous avons bien mieux à faire, à mon sens, que de penser toute la journée à comment se nourrir sainement. Même si ce n'est pas toujours simple en pratique, mon objectif est de les mettre au contact d'aliments appropriés, de mettre en place des rituels vertueux et de ne plus y penser. Pour conclure, je souhaiterais apporter mon point de vue à la question l'alimentation des enfants doit-elle être différente de celle des adultes? Pour les très jeunes enfants, l'allaitement maternel me semble à privilégier dans la mesure du possible. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, me semblent un point de repère intéressant. Allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, puis allaitement non exclusif, je cite, de 6 mois à 2 ans, voire plus. Fin de citation. Contrairement à une idée fausse très répandue, l'allaitement maternel a des bienfaits et sauve des vies dans tous les pays, aussi bien riches que pauvres. En dehors du cas de la petite enfance, je n'ai pas trouvé d'éléments qui m'aient convaincu de donner une alimentation spécifique à mes enfants. Chez nous, la nourriture préparée est la même pour toute la famille. La transition depuis la petite enfance peut être l'occasion de proposer des aliments mous, comme des fruits mixés, des bananes, des avocats, du jaune d'œuf, des mangues, des baies, patates douces et pommes de terre cuites, bouillon d'eau, purée, soupe, lait de coco. Certains aliments peuvent être ramollis en les pré-mâchant pour l'enfant. C'est peut-être aussi l'occasion de proposer des morceaux d'aliments plus durs à sucer, comme des courgettes, concombres, des brocolis, du chou-fleur, etc. Sur la base de mes lectures et de mes observations personnelles, il me semble que l'appétit des enfants est très connecté au ressenti de leur corps, assez intuitif et spontané. C'est pourquoi nous nous contentons de mettre en place un cadre approprié, à l'intérieur duquel Yumi et bientôt Nae seront laissés les plus libres possibles. Dans la mesure que nous permettent les contraintes de notre vie quotidienne, nous la laissons, et bientôt nous les laissons, faire leurs propres expériences, leur propre apprentissage, guidés par leurs envies. Dans la préparation des repas pour Yumi, nous tenons compte de ses demandes et régulièrement, nous lui proposons de découvrir ou de redécouvrir des aliments plus animés. Pour Yumi, dans la préparation des repas, nous tenons compte de ses demandes et régulièrement, nous lui proposons de découvrir ou de redécouvrir des aliments plus inhabituels. Voilà, c'est la fin de ce deuxième article. Je vais vous lire à présent le troisième article de la série, donc qui porte sur l'application pratique des principes généraux que je viens d'énumérer. Donc, ce troisième article commence par deux citations. Une première citation de Jean Rostand, « Un bon menu vaut mieux qu'une ordonnance ». Et une deuxième citation de George Orwell, « Nous pourrions bien nous apercevoir un jour » que les aliments en conserve sont des armes bien plus meurtrières que les mitrailleuses. Fin de citation. Donc, comme je vous le disais, ce troisième article détaille comment Romy et moi nous déclinons donc les principes généraux que je viens de détailler, comment on les décline concrètement au quotidien. Donc aujourd'hui, voici les aliments que nous donnons à manger à Yumi. Tout d'abord, une large quantité et une grande variété de légumes, de toutes les couleurs, et notamment des verts foncés. En particulier, les légumes sont les aliments prenant le plus de place dans l'assiette de Yumi, et plus généralement sur la table familiale. Des légumes crus sont présents à chaque repas, les autres légumes sont cuits à la vapeur ou à feu doux dans une poêle. Des légumes riches en fibres, notamment en fibres solubles, sont présents en routine. Par exemple, des légumes crucifères, brocolis, choux, choux-fleurs, choux-kale, choux de Bruxelles, choux-rave, rutabaga, navets, navets boules d'or, etc. Des légumes verts à feuilles, comme les épinards, les blettes, l'oseille, les algues, les salades. Des asperges, oignons, échalotes, ail, poireaux, artichauts, avocats, topinambours, champignons, manioc, patates douces, plantains, konjac, etc. Des graines germées, de petite taille, sont utilisées comme condiments. Donc, par exemple, des graines germées de brocoli, de radis, de cresson, de chou rouge, de roquette, de fenugrec. Les légumes préférés d'Yumi sont les épinards, les courgettes, les potimarrons, les algues, surtout du nori, donc culture japonaise oblige, les aubergines, les marrons, les poireaux, les blettes, les rutabaga et les avocats. Donc après une large quantité et une grande variété de légumes, parmi les aliments que nous donnons à manger au Yumi, il y a aussi une large quantité et une grande variété de fruits de toutes les couleurs. Donc le petit déjeuner et le goûter, quand il y en a, commencent toujours par des fruits. Les fruits ne sont pas systématiques à la fin du déjeuner et du dîner. Néanmoins, ils constituent le dessert de routine. Les fruits frais préférés de Yumi sont les fraises, les oranges, les bananes, les clémentines, les poires, les pamplemousses, les baies, les mirabelles, les melons, les pastèques, les cerises, les mangues et les quetschs. Ses fruits séchés préférés sont les raisins, les pruneaux et les dés de noix de coco. Ses fruits secs, crus et non salés, préférés, sont les noix de cajou, les pistaches et les amandes. Donc, autre type d'aliments qu'on donne à Yumi aujourd'hui, des aliments riches en amidon, donc des tubercules, pommes de terre, patates douces, igname, manioc, taro, konjac, et du riz blanc, aliment de base de la cuisine japonaise, et donc un aliment de base dans une maison où vivent trois japonaises. Les pommes de terre et le riz blanc, provenant d'Italie, le riz blanc, sont également consommés une fois refroidis 24 heures au réfrigérateur pour profiter d'un maximum d'amidon résistant. Autre type d'aliments, des produits animaux, principalement du poisson, des fruits de mer et des œufs. Ils ne sont pas présents à chaque repas. Le cas échéant, leur place dans l'assiette est relativement réduite. Poissons maigres et poissons gras sont consommés en alternance. Pour réduire l'exposition aux polluants bioaccumulables, je privilégie les poissons gras qui se trouvent en bas de chaînes alimentaires aquatiques. Sardines, anchois, maquereaux, harengs, etc. Environ une fois par semaine, nous mangeons des abats, le plus souvent du foie, issus de ruminants élevés dans une ferme bio où ils sont nourris à l'herbe. Le discours de l'éleveur m'est apparu responsable, notamment sur la manière dont il traite les animaux et le petit abattoir local qu'il utilise. Il fait visiter sa ferme, je souhaiterais prendre le temps d'y aller, je souhaiterais aussi assister à un abattage. Environ une fois par semaine, nous mangeons un poulet, labellisé bio et label rouge. La carcasse du poulet est ensuite utilisée pour faire un bouillon d'eau. En routine, je choisis des produits animaux labellisés bio et des poissons labellisés MSC, de préférence sauvages et pêchés loin de zones densément peuplées, typiquement Alaska, Islande. Les œufs que je choisis sont labellisés bio et bleu blanc cœur. Chez nous, ils sont consommés durs, cuits dans une poêle à feu doux, œufs brouillés, omelettes, tamagoyaki, cassés sur une poêlée de légumes, etc. Donc ils sont consommés durs, cuits dans une poêle à feu doux, ou crus avec du riz, ce qu'on appelle tamago kake gohan. Les sushis et les sashimi, au restaurant ou chez mes beaux-parents, qui sont japonais, permettent de manger de la viande crue à l'occasion. Des épices, des herbes et des bulbes aromatiques font également partie de ce que l'on donne à Yumi. Les plus utilisés chez nous sont l'échalote, le curry, l'ail, la cannelle, la ciboulette, l'oignon, le persil, le basilic, le gingembre et le curcuma. Également parmi les aliments que l'on donne à Yumi, du miel, le plus foncé du magasin bio, ou mieux, celui directement acheté chez un apiculteur. Au marché, en vacances, via des connaissances, ou pour nous, ramener des Vosges par papy et mamie. Une première approximation, choisir un miel de montagne ou un miel de forêt pourraient correspondre à des zones de collecte de pollen plus éloignées des activités humaines et donc diminuer la présence de polluants. Le miel peut être consommé tel quel, par exemple sur des fruits. Yomi aime bien en mettre sur son pamplemousse, par exemple. Le miel peut également être intégré au gâteau de Romy. J'envisage de faire goûter de la gelée royale à Yumi à l'occasion. Toujours dans ce que l'on donne à Yumi, et cette fois-ci dans une moindre mesure, des légumineuses, trempées 24 heures puis cuites, comme des lentilles, des haricots, des pois chiches, des flageolets. Du sarrasin et du quinoa, du chocolat, si possible riche en cacao, plus de 70%, de la poudre de cacao cru peut être facilement trouvée aujourd'hui. Elle est une source pratique d'antioxydants. Personnellement, je mange des fèves de cacao. Aujourd'hui, le goût est trop amer pour Yumi. Yumi et moi essayons de faire en sorte que nos enfants consomment peu de produits industriels très transformés, donc plats préparés, farine et sucre raffinés, produits animaux très transformés, aliments cuits à forte température, huiles issues de graines, produits contenant divers additifs, colorants, conservateurs, édulcorants, etc. Viennoiseries industrielles, sodas, confiseries diverses, etc. En première approximation, la présence d'acides gras trans et de sirop de fructose de maïs me paraît être un indicateur de faible qualité nutritionnelle. Toujours parmi les aliments que nous consommons peu, les produits laitiers, d'une manière générale, ceux qui sont crus, longuement fermentés et issus de lait de chèvre semblent être les mieux tolérés. À la maison, le beurre et le fromage sont ceux que nous mangeons le plus. J'envisage de tester des yaourts faits maison, ayant fermenté au moins 24 heures. Toujours parmi cette liste d'aliments que l'on essaye de consommer peu, les céréales raffinées, autres que le riz blanc. Et puis les produits à base de farine de céréales complètes, dans une moindre mesure. Je considère que ces aliments sont moins riches en nutriments biodisponibles, et pour certains, peuvent contenir des ingrédients dont les effets néfastes sur la santé sont avérés ou suspectés. Néanmoins, dans la mesure où la base de l'alimentation de mes enfants me paraît très saine, la consommation épisodique de ces aliments ne constitue pas un grand sujet d'inquiétude pour moi. On peut voir ça comme une application, encore une fois, du principe 20-80, même si, pendant la période sensible de la jeune enfance, je viserais bien plutôt un 10-90. Au-delà de nos préférences parmi les différents groupes d'aliments, voici d'autres aspects pratiques liés à notre alimentation. Les goûters sont principalement faits de fruits. Fruits frais, fruits secs et fruits séchés. Les gâteaux de Romy, assez simples, peu sucrés, avec un nombre réduit d'ingrédients, sont également très appréciés. Notre huile favorite est l'huile d'olive, vierge extra et extraite à froid. Nous l'utilisons pour la cuisson douce et pour l'assaisonnement, sans excès. Parfois j'assaisonne aussi avec de l'huile d'avocat ou de l'huile de noix, toujours sans excès. J'aime bien aussi l'huile de coco. Concernant les aliments non locaux, d'une manière générale, plus l'aliment a été produit loin, plus nous prêtons attention à en consommer peu. Les aliments riches en probiotiques que nous consommons en routine sont le miso et la choucroute, le natto et le tempeh plus exceptionnellement. Le kombucha a eu assez peu de succès auprès de Yumi quand j'ai testé auprès d'elle. J'aimerais bien faire moi-même des légumes fermentés, mais cela me paraît difficilement compatible avec de fortes contraintes de temps et un petit appartement parisien. Le temps réservé à la cuisine peut être réduit, si besoin, en optant pour une préparation minimaliste et des aliments simples. Encore une autre application du principe 20-80. D'une manière générale, il me semble important de rester détendu et raisonnablement flexible. La déclinaison pratique du raisonnablement est laissée à l'appréciation éclairée de chacun. Mais quitte à manger une glace au chocolat blanc, encore le chocolat blanc, mon péché mignon, je trouve que ce serait dommage de venir gâcher à son plaisir avec de la mauvaise conscience. Néanmoins, dans ce type de situation, je rappelle parfois à Yumi qu'elle n'est pas obligée de tout terminer, qu'elle peut s'arrêter lorsque le plaisir s'amoindrit. Les récipients que j'utilise pour stocker et réchauffer sont en verre et dans une moindre mesure en céramique. Au début, j'étais un peu inquiet quant au risque de casse. Dans les faits, je constate qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Nos casseroles sont en inox 1810. Quand nous aurons un peu plus de marge financière, nos autres ustensiles seront aussi en inox 1810. Pour le moment, notre poêle est en céramique. Une fois rentrés du travail, nous préparons à dîner dès que possible, dans l'objectif de finir le repas au moins 2 heures avant l'heure du coucher des enfants. Sur le principe, la consommation d'insectes me paraît très intéressante, du point de vue nutritionnel et environnemental. En France, ceux que j'ai pu trouver étaient très transformés et accompagnés de nombreux additifs. L'aliment final ressemble moins à l'insecte initial, mais cela enlève pas mal de son intérêt nutritionnel à mon sens. Manger lentement est certainement un point clé dans une bonne alimentation. Mais bon, c'est pas vraiment un enjeu à la maison, nous on aurait plutôt le problème inverse. Pour diminuer le temps entre la cueillette et la consommation de nos fruits et légumes, je me suis renseigné sur les jours de livraison des magasins de proximité, et puis nous achetons des fruits et légumes en quantité relativement réduite, 2 à 3 fois par semaine. Cela donne lieu à de petites courses rapides, ciblées sur les produits frais. Les assiettes que nous utilisons pour nos repas sont relativement petites. Leur diamètre est de 18 cm, j'ai été mesuré. Cet aspect semble diminuer le risque de consommation excessive, sans effort conscient. Quelques publis vraiment intéressantes sur ce sujet. Et puis concernant la préparation des fruits et légumes, je rince sans tremper. Et puis concernant la préparation des fruits et légumes, je rince sans tremper, j'essaie d'éplucher peu avant la consommation et j'évite de découper en petits morceaux. Si je le fais, c'est généralement pour les rendre plus accessibles à Yumi uniquement. Voilà, c'est la fin de ce deuxième article du podcast, donc le troisième article de la série. Donc pour mémoire, le 4e article de la série d'articles sur le blog est une liste de retours d'expérience pour partager ce qui marche bien chez nous, ce qui marche moins bien. Bien comme c'est l'habitude sur le podcast, le format que je choisis pour les podcasts, je partage avec vous une ou deux pratiques qui marchent bien à la maison. Par exemple, nous on aime bien les AMAP, c'est-à-dire les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui nous paraissent un moyen simple d'obtenir des produits bio, variés, locaux et de saison. L'accès direct aux producteurs permet généralement d'obtenir un coût réduit. Et puis pour maîtriser le surcoût associé aux achats de produits bio hors AMAP, moi je me focalise pour les fruits et légumes sur ceux réputés contenir le plus de résidus de pesticides. Pour ça, on peut se baser sur plusieurs listes de références. Par exemple, la liste de l'ONG qui s'appelle EWG pour Environmental Working Group. C'est une référence souvent citée et vous trouverez sur le blog un lien vers une traduction en français de la dernière liste qui est publiée. De toute manière, je vais approfondir ce thème dans un prochain article. Ça me semble un point, avoir une référence solide sur ce sujet, ça me paraît être important pour pouvoir diminuer l'exposition de ces enfants aux résidus de pesticides. Parce que je considère cette pratique comme une autre application du principe 20-80. Donc toujours choisir ces 20% d'actions qui nous permettent d'obtenir 80% de résultats. Voilà, c'est la fin de ce podcast. S'il vous a plu, si vous pensez que son contenu peut être utile à d'autres gens, eh bien, je vous invite à lui donner une note sur iTunes et à y écrire votre avis. Merci beaucoup par avance si vous faites ça. Vraiment, ça compte au final. Voilà, merci à vous. Merci à Ronan Vernon pour la musique. Merci à Yamoys pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.